plus est très important dans ce que nous faisons et dans ce que j'essaie de mettre en place maintenant. Au fond, je pose au départ une sorte de situation d'incertitude radicale des êtres humains en société, à peu près aussi absurde et aussi importante dans le cadre que l'idée de nature chez les contractualistes. Et nous avons également, Laurent Thévenot et moi, essayé de construire un cadre d'analyse de façon à rendre compte de la compétence des personnes à développer des arguments, mais pas seulement des arguments, à développer des critiques et des justifications dans des situations de dispute. En considérant au fond que tout n'était pas contingent dans les critiques et les justifications qui étaient formulées, que l'on pouvait faire encore, en quelque sorte, une sorte de grammaire de ce qui les pouvait être introduit, particulièrement lorsque des contrôles, lorsque la critique était possible, c'est-à-dire lorsque la justification ne pouvait pas être n'importe quoi, mais devait être plus ou moins argumentée et prendre appui sur ce que je vais appeler des épreuves. Et on a donc construit ce modèle qui était largement inspiré, l'idée de compétence est largement inspiré de la linguistique chomskienne, avec l'idée on va isoler les chaînes permettant aux personnes de produire des critiques et même des critiques nouvelles ou des justifications et de comprendre dans une situation les critiques ou les justifications de leurs partenaires. Alors, je vais pas rentrer dans l'analyse du cadre, qui est très critiquable, comme vous l'avez montré quand c'est paru, et je suis tout à fait d'accord. Dans une large mesure, si vous voulez, mon travail depuis une vingtaine d'années consiste à, un peu comme les économistes néoclassiques avec les cadres, avec le cadre néoclassique, à le déformer sans arrêt, d'y trouver des défauts. Bon, mais ça, c'est bon. Et donc, si vous voulez, le cadre de la justification qui peut être interprété de deux façons, qu'il a été de deux façons par les utilisateurs, et c'est vrai que Thévenot et moi, on n'est pas complètement sur la même longueur d'onde là-dessus. Moi, je l'ai interprété en termes anthropologiques comme étant, par en bas, en quelque sorte, un cadre d'analyse de la compétence ordinaire mise en œuvre par les personnes, pour dire vite, de notre ensemble culturel dans leurs disputes. Pas du tout comme une théorie de la justice. C'est-à-dire pas du tout comme un cadre devant servir d'en haut à un responsable, je reviendrai sur le terme tout à l'heure, pour faire des distributions qu'il va considérer comme étant justes. Malgré tout, le cadre permettait de spécifier un certain nombre de cas de figure permettant aux acteurs de considérer que la situation dans laquelle ils se trouvaient était injuste ou non. Je reviendrai tout à l'heure sur quelques-uns de ces cas de figure. Largement, un de nos soucis en faisant ce travail était de ne pas faire une théorie de l'argumentation. Ça a été fait il y a une vingtaine d'années, à l'époque du linguistic term, et nous souhaitions, bien évidemment, ne pas produire simplement une matrice à développer des arguments. Et pour cela, nous avons introduit dans le cadre une notion qui venait de la sociologie de Bruno Latour, mais que nous avons largement transformée, qui était celle des preuves. Avec comme argument, c'est pas tout de le dire, mais il faut mettre les prétentions à l'épreuve des choses, ce qui fait que nous avons introduit à côté d'éléments venus largement de la philosophie politique, nous avons introduit des descriptions de mondes d'objets en considérant que oui, mais vrai, je raconte le cadre, il ne faut pas le faire. Que chacun des types de cité ou de grandeur permettant de produire des arguments devait être associé à des mondes d'objets permettant de mettre à l'épreuve les prétentions des personnes. Pour vous donner un exemple très simple, si dans un laboratoire vous avez un vieux comme moi et un jeune et un magnifique ordinateur nouveau et un vieil ordinateur, et que c'est justement le vieux qui a un vieil ordinateur et que le jeune dit il ne sait pas du tout l'utiliser et c'est parce que c'est un vieux directeur autocrate que c'est lui qui l'a, à ce moment-là on va lui demander d'activer, de faire ses preuves sur l'ordinateur. Alors, c'est un exemple très simple parce qu'il est industriel, mais on peut prendre des exemples de ce genre dans tous les autres genres de type de cadre que nous avions dessiné, qu'il s'agisse d'un cadre domestique, etc. Alors, nous avons entrepris dans les enquêtes de décrire un certain nombre de ces épreuves. Quand on parle d'épreuves, il faut distinguer. Oui, donc je vais quand même donner une spécification sur épreuves. J'essaie d'aller vite parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps. Une spécification sur épreuve qui se trouve dans le nouvel esprit du capitalisme, parce que le livre a été écrit dans une large mesure pour répondre à des critiques qui nous accusaient de ne pas tenir compte des rapports de force. Et donc on a reformulé l'épreuve en considérant que les épreuves étaient toujours des épreuves de force, mais que sous certaines conditions, elles pouvaient être considérées comme des épreuves légitimes, à partir de ce cadre de compréhension, ce cadre du sens de la justice. Et qu'une de ces conditions principales était que l'épreuve soit épreuve de quelque chose, c'est-à-dire que soit spécifiée la force qui devait être mise en œuvre dans l'épreuve. Si vous prenez par exemple la critique des examens mise en œuvre en Angleterre par Basil Bernstein ou en France par Bourdieu dans les années 60, on peut la redécrire comme ça. Ce qui est critiqué, c'est que l'examen de latin n'est pas vraiment seulement un examen où passerait une force qui serait la compétence en latin, mais est un examen où passe en cachette tout un ensemble d'autres forces qui tiennent à l'origine sociale des candidats, comme par exemple leur aptitude à parler de façon distinguée, etc. Vous connaissez ça comme moi. Alors, parmi les tests les plus importants sont des tests de sélection, à tel point que l'on peut au fond définir une société à mon sens à un moment du temps par les principaux tests de sélection auxquels sont soumis les personnes. Et dans le cas des tests de sélection, les tests sont contrôlés, vous avez d'habitude un format, et on peut faire la distinction entre l'épreuve telle qu'elle se fait ici et maintenant, par exemple l'épreuve de latin telle qu'elle est passée dans telle entreprise, et un format d'épreuve qui va être stocké quelque part, habituellement dans nos sociétés, dans du droit, dans des procédures, dans des règlements d'entreprise, etc. Alors, il y a une autre distinction sur laquelle je reviendrai tout à l'heure qui est relativement utile, qui va être la distinction entre ce qu'on pourrait appeler des épreuves en soi et des épreuves pour soi, c'est-à-dire des épreuves qui vont être ressenties par une personne, mais qui n'ayant pas de format, sont très difficiles à objectiver. Par rapport à des épreuves qui ayant fait l'objet d'un cadrage procédural et étant liées à des formats, peuvent être facilement objectivées. Je donnerai comme exemple les airs de mépris qui pouvaient être pris il y a 30 ans par rapport à un couple d'homosexuel pouvaient être des épreuves en soi très très dures, mais si l'un des deux personnes du couple en prenait en bras, on pouvait lui répondre, mais non, qu'est-ce que tu, non, on n'a pas souri à cause de ça, qu'est-ce que tu crois? Donc, refaisant reposer toute la charge de la preuve sur celui qui était le offensé. Par contre, à partir de la mise en place d'un délit d'homophobie, il y a des instruments qui peuvent être, et un format des preuves, et des instruments qui peuvent être utilisés pour passer à une épreuve pour soi. Alors, problème, puisque c'était un détour de production, est-ce que l'on peut, dans quelle mesure, est-ce que l'on peut revenir sur la critique, refaire de la sociologie critique à partir de ce programme de sociologie de la critique? Qu'est-ce qu'il offre comme possibilité pour critiquer? Alors, un problème tout à fait central, évidemment, pour passer d'une sociologie... Au fond, si vous voulez, le mouvement de la sociologie de la critique était un mouvement positiviste, qui voulait aller un peu plus loin, encore plus loin dans la description, avoir des meilleures descriptions, et qui prétendait, qui avait bien une extériorité, mais dont l'extériorité était l'extériorité constituée par le laboratoire comme lieu d'où pourrait être cumulé et mise côte à côte et confrontée tous les discours de tout le monde, par exemple dans le cas d'une affaire, y compris les plus antagonistes, ce qui n'est jamais le cas dans la réalité. Et le refus de jugement était beaucoup plus fort que dans la sociologie critique des années 70, où d'ailleurs le jugement critique rentrait sans arrêt en tension avec la recherche de la neutralité des lois. Mais dans ce cas-là, il y a un refus complet du jugement, et donc se pose la question, pour revenir à une sociologie critique, de la différence normative. Au fond, l'articulation entre sociologie et critique passe par cette question de la différence normative. Alors, depuis une sociologie de la critique, on va bien avoir quelque chose comme une différence normative qui va pouvoir être introduite. C'est le jugement critique des acteurs eux-mêmes. C'est devenu seulement un jingle chez nous, prononçons le Z. Leur position normative, un peu comme chez Walzer, un peu comme Walzer critiquant l'école de Francfort, et faisant de la prophétie antique l'exemple même de la critique, puisque c'est quand même largement les prophètes d'Israël qui ont inventé la critique telle que nous la connaissons, parce qu'ils passaient leur temps à injurier leur chef notamment. Mais dit Walzer, ils le faisaient à partir des valeurs mêmes de leur groupe, et non à partir d'extériorités utopiques et biscornues, comme il le reproche aux théoriciens de la théorie critique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir du sens de la critique des acteurs? On peut faire des choses. On peut faire des choses en prolongeant ou en accompagnant la critique qui est celle des acteurs eux-mêmes. On peut, par exemple, critiquer une épreuve locale pour n'être pas conforme à son format. On peut faire comme l'ont fait les sociologues dont je parlais tout à l'heure des années 60, montrer que dans une épreuve de sélection importante passe tout autre chose que ce qui devrait y passer, et que donc que l'épreuve est en quelque sorte polluée. On peut dénoncer des discriminations, ça c'est possible. On peut dénoncer des discriminations. On peut dire, puisque ce monsieur est très fort en trigonométrie et qu'il a été exclu de l'examen de trigonométrie, est-ce que ça ne serait pas parce qu'il est noir ou d'origine maghrébine, et donc dénoncer. Bon, on peut faire tout ça à partir de ce cadre. Mais Mais c'est pas suffisant. Mais on sent bien, mais on sent bien que qu'on ne va pas aller très loin dans le sens d'une théorie critique de cette façon-là. Et à mon sens, pour une raison au fond assez simple, c'est que les acteurs sont réalistes. Et donc, comme ils sont réalistes, ils font des critiques, particulièrement quand on saisit leurs critiques dans des situations où on peut enquêter, ils font des critiques qui ont quelques chances de réussir, ou au moins d'être écoutées, et qui vont se poser par rapport à un collègue, à un ami, à leurs parents. Ils vont considérer scandaleux que la secrétaire d'à côté ait eu 3 jours de vacances de plus, mais ils n'ont pas trouvé scandaleux qu'elle soit secrétaire. Parce qu'ils n'ont pas professeur au Collège de France, ou ils n'ont pas directrice de la compagnie d'assurance où elle travaille. Parce que ça serait simplement irréel, irréaliste. Et ce qui fait, si vous voulez, et d'autre part, les critiques qui vont être développées par les personnes, là encore, dans les situations où on va les saisir, vont partir essentiellement d'une position individuelle et donc vont prendre un tour méritocratique. Ça va être moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Par exemple, chez un artisan. J'ai tout fait pour le patron, j'ai travaillé le soir, j'ai pas été payé, je suis le meilleur pour réparer les horloges à bascule, et c'est moi qu'on met au chômage à 50 ans. Donc ça va être des formes de justice qui vont tenir compte des mérites individuels. Et donc, comment peut-être, comment peut-être, comment...